de l'approche originale de Jean Monnet, finalement. C'était par la création de solidarités économiques que l'on va établir, bien entendu, la paix en Europe. Donc on avait commencé par les aspects les plus simples, du démantèlement tarifaire, des politiques commerciales, etc., qui menaient très, très logiquement à l'idée d'une coopération monétaire. Mais ça a été en effet sa contribution principale. Quant à la réunification de l'Allemagne, si on essaye de se remettre dans l'atmosphère de l'époque, c'est-à-dire des années 70, en pleine guerre froide, à une époque où les pays de l'Est étaient encore bien tenus par Moscou, où il y avait seulement les premiers frémissements qui commençaient à se manifester en Pologne à la fin des années 70, la réunification de l'Allemagne apparaissait à l'époque comme une perspective bien lointaine. Bien entendu, on faisait tourner ce que j'appellerais un peu méchamment les moulins à prière sur la désirabilité d'une réunification de l'Allemagne, mais elle paraissait hors de portée à l'époque et personne n'imaginait cette formidable accélération de l'histoire qui se produira 10 ans plus tard, au fond à peine 10 ans plus tard finalement. Mais c'est à lui qu'il faudrait poser la question, comment la concevait-il dans les années 1970? Il ne m'apparaît pas clairement qu'il la concevait comme quelque chose d'atteignable, d'imminent, ni même de proche. Et personne, au fond, ne la concevait comme telle à l'époque.
Mais aurait-il déclaré, à votre avis, ce que, paraît-il, le général de Gaulle a déclaré à Moscou dans son voyage de 1966 sur la réunification allemande? La France est évidemment favorable à la réunification allemande, mais elle n'est ni particulièrement ardente, ni particulièrement pressée.
Je ne sais pas si ce propos est authentique.
Il
est trop beau pour ne pas être apocryphe.
Oui, il y a un autre propos dont j'espère qu'il soit vraiment apocryphe, c'est la réponse que fait le général de Gaulle à Kissinger, ce que rappelle Kissinger dans ses mémoires. Kissinger aurait dit en privé à de Gaulle « Et lorsque les Allemands auront cessé de culpabiliser, qu'ils se seront réunifiés, que ferez-vous ?» Et de Gaulle, en plaisantant, aurait dit « Eh bien, la guerre ». Donc j'espère que celle-là est vraiment apocryphe. Alors, une question, je crois qu'on a remarquablement dessiné, vous avez remarquablement dessiné les continuités, les ruptures avec la séquence précédente. Et avec la séquence suivante, que diriez-vous? Diriez-vous qu'il y a eu encore plus de continuité entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand dans la conduite de la politique étrangère? Ou davantage de ruptures? J'ai le sentiment que finalement, les briques qui se sont mises en place sous Giscard ont été relativement poursuivies, que Mitterrand a plutôt édifié sur ces briques qu'il n'a modifié la donne.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je crois que ce que vous dites est tout à fait vrai dans le domaine stratégique. Tout à fait vrai. Puisque, au fond, le grand problème dans les années 70, c'était de savoir qu'est-ce que l'Europe, l'Alliance Atlantique, la France pouvaient faire face à une attitude soviétique menaçante, qui était une attitude d'armement croissant, et dans laquelle l'Union soviétique déployait des fusées à moyenne portée, les SS-20, avec 1800 km de portée, qui menaçaient très directement, bien sûr, l'Allemagne, la France, les grandes villes européennes. Bon. Le problème de savoir comment réagir à cette initiative soviétique a dominé une bonne partie des dernières années du mandat de M. Giscard d'Estaing. Les Américains avaient réfléchi à plusieurs parades possibles. Ils avaient inventé la bombe à neutrons, vous vous souvenez, qui était un instrument magnifique qui permettait de tuer tout le monde, mais de respecter tout ce qui était
tendu. Les monuments historiques,
si j'ose dire. Oui. Non seulement les monuments historiques, mais même les chars. On tuait les conducteurs et les mitrailleurs, mais on ne tuait pas le char. Enfin, c'était une chose extraordinaire. Et au fond, pendant quelques années, M. Carter, le président Carter, a défendu l'idée du développement de la bombe à neutrons et d'armer les forces américaines en Europe avec cette arme nouvelle. Au grand dam des Européens, et notamment de M. Schmitt, qui n'aimait pas du tout cette idée, car il voyait bien que le champ de bataille d'un affrontement éventuel serait l'Allemagne. Et M. Schmitt, au fond, était très réticent à l'idée de cette arme. Et c'est d'ailleurs devant les réticences largement allemandes que M. Carter a finalement fait volte face et renoncer à déployer la bombe à neutrons. Mais quand ensuite il s'est agi d'installer des fusées américaines à moyenne portée en Europe pour contrebalancer les SS-20 soviétiques, M. Schmitt n'y était pas davantage favorable, si ma mémoire est bonne. Ce sujet a dominé les discussions au sommet de la Guadeloupe en janvier 1980. On en a reparlé en beaucoup d'autres occasions. Et c'est M. Mitterrand qui, si j'ose dire, a transformé l'essai puisque c'est lui qui a réussi à prêcher le dossier, à plaider le dossier du déploiement des Pershing en Allemagne devant ce fameux discours du Bundestag. Donc, en ce sens, Thierry Pesch a entièrement raison. Et il y a une très très bonne continuité entre la réflexion stratégique française sous Giscard d'Estaing et ce qui s'est développé ensuite sous Mitterrand. Et au demeurant, si vous regardez d'ailleurs le détail des lois programmes militaires, du développement et de la modernisation de notre outil de dissuasion, la continuité est complète. Alors ça, c'est incontestable. Il y a d'autres domaines dans lesquels ça n'apparaît pas du tout, cette continuité. Bon, continuité sans doute dans la politique européenne, d'une certaine façon, bien sûr, on pourrait en débattre. Mais il y a un domaine dont nous n'avons pas du tout parlé jusqu'à présent et qui est un domaine intéressant, c'est celui du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, M. Giscard d'Estaing, qui se voulait en rupture avec le général de Gaulle, a poursuivi, alors en ligne droite, la politique définie par le général de Gaulle au lendemain de la guerre des Six Jours. Le général de Gaulle condamnant l'occupation de territoires occupés en Cisjordanie,
peuple d'élite sûr de
parlant
lui,
du peuple dominateur et sûr de lui. Tout ceci s'est développé en parfaite continuité sous M. Giscard d'Estaing. C'est M. Giscard d'Estaing qui, le premier, a pris des initiatives vis-à-vis des Palestiniens. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, rencontrer pour la première fois M. Arafat à Beyrouth. Il a ensuite donné son accord à l'ouverture d'un bureau de représentation de l'OLP à Paris. Et il a été l'initiateur de ce qui est devenu par la suite la déclaration de Venise, qui est la déclaration du sommet de Venise de juin 1980, qui définit l'approche européenne à l'égard du Proche-Orient, c'est-à-dire un État israélien dans des frontières sûres et garanties, mais le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, enfin ce qui préfigure l'apparition d'un État palestinien. Tout ça, c'est la continuité. En revanche, il est un président de la République qui, pendant les 7 années de son mandat, ne s'est pas rendu une seule fois en Israël et n'a pas davantage accueilli à Paris le Premier ministre israélien, M. Begin. Les relations franco-israéliennes étaient très très tendues à l'époque. Elles ont été émaillées par toutes sortes d'incidents. Je mentionne simplement au passage, pour ceux qui ont de la mémoire, l'affaire Abu Daoud, par exemple, qui avait empoisonné les relations. Il y aurait d'autres épisodes, mais...
Abu Daoud, c'est bien c'est ce militant qui est venu se faire soigner en France.
Non, Abu Daoud, c'était un des terroristes suspectés d'avoir participé à l'attentat contre les athlètes israéliens à Munich. Et qui est venu en France et qui a été expulsé au lieu d'être arrêté. Bon. Voilà. Donc, c'est un domaine dans lequel je trouve qu'il n'y a pas de continuité, là, pour le coup, avec M. Mitterrand. Puisque M. Mitterrand est apparu avec une image beaucoup plus pro-israélienne. M. Mitterrand
plus
a pris l'initiative à l'égard d'Israël. Alors que Giscard est resté vraiment dans la continuité de la politique arrêtée par le général de Gaulle après la guerre des Six Jours. Alors, on ne peut pas reconstruire l'histoire, comme chacun sait. Je ne sais pas si de Gaulle aurait maintenu pendant 7 ans cette ligne très, très dure. Mais Giscard, lui, l'a tenue. Et ça, c'est tout à fait intéressant, je pense. Parce que la continuité, comme vous le voyez, n'est pas parfaite dans tous les domaines.
Jean-Louis Bourlange.
Eh bien, je voudrais revenir sur cette histoire du sommet de la Guadeloupe. Je suis quand même assez impressionné. Je n'avais pas du tout mesuré que Helmut Schmidt était hostile à l'intervention, à l'équipement de fusées. J'avais l'impression inverse. J'avais l'impression que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui, en grande partie, pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il ne voulait pas froisser le Parti communiste sur lequel il comptait pour sa réélection. En réalité, il comptait que M. Marché fasse une solide opposition à Mitterrand, exprime une solide opposition à Mitterrand qui faciliterait sa réélection, et que donc il y avait un accord profond entre Schmitt et Giscard sur ce plan-là. Et je découvre en vous écoutant qu'en réalité, Helmut Schmitt, qui d'ailleurs montre un peu les mêmes dispositions aujourd'hui, parce que sur l'affaire ukrainienne, on voit qu'il est sur une ligne extrêmement modérée, extrêmement prudente, extrêmement réceptive aux thèses russes, qu'il était hostile à cet équipement. Et je trouve que c'est... Enfin, quel était donc son concept? Quel était le concept qu'on pouvait sortir? Parce qu'il m'avait semblé, et vous me démentirez, que tant que Carter était élu, Giscard Et Schmitt avait dit on n'y a rien à faire avec Carter, il est trop mou, etc. Et que quand Reagan est apparu, ils se sont dit alors là, on a enfin un interlocuteur qui va pouvoir réagir à ces provocations soviétiques. Et donc j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un accord entre eux. Et je voudrais que vous me confirmiez cette divergence que vous signalez et qui pour moi est une nouveauté.
C'est
l'effet de mon ignorance.
Mais il n'y avait pas, il faudrait revoir tout ça beaucoup plus en détail, mais il n'y avait pas de vraie divergence. Il me semble que c'est M. Schmitt qui, lui, a exprimé les objections les plus fortes, mais que M. Giscard d'Estaing ne s'est pas dissocié de M. Schmitt dans ce domaine. Ils sont restés, encore une fois, en contact constant et assez proches. Et Reagan, c'est un peu après, parce qu'au fond, Giscard n'a passé que très très peu de temps avec Reagan. Oui. Ils se sont recouverts très peu de temps. Non, la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'était Carter encore. Absolument.
C'est ma mémoire.
La Guadeloupe, c'était Carter que M. Giscard d'Estaing considérait comme un partenaire difficile, peu fiable. Il ne l'aimait guère, alors qu'il s'était bien entendu avec le président Ford, avec lequel il a d'ailleurs conservé par la suite des relations d'amitié, puisque M. Ford rassemblait chaque année, je ne sais plus où, dans le Colorado, ses anciens partenaires, M. Giscard d'Estaing. Non, il était élu du Michigan, mais il avait une maison quelque part dans le Colorado. Une résidence d'été. Et Ford, c'était du solide aux yeux de Giscard, alors que Carter, ça ne l'était pas. Carter est un homme dont il dit, dans ses mémoires, il l'écrit, qu'il faisait suivre des déclarations très vigoureuses de volte-face imprévisibles. Bon, et la bombe à neutrons est l'exemple type de tout cela. Donc il le considérait comme assez peu fiable. Et le problème de la réponse à trouver au déploiement des SS-20 était une question ouverte en réalité. Il n'y avait pas de solution à cette époque en dehors du déploiement éventuel de fusées Pershing à courte portée. Et ça ne s'est fait, ça n'est venu à maturité qu'après. Mais Michaela nous dira si elle a le sentiment qu'il y avait aussi une bonne entente franco-allemande sur ce sujet.
Michaela Wiegel.
De mon souvenir, effectivement, il n'y avait pas de mésentente sur ce sujet. Alors, il faut, ça c'est pour l'Allemagne, très clairement, il y avait une pression de politique intérieure très très forte sur M. Schmitt, qui, il ne faut pas oublier, était considéré comme un faucon de la SPD. Mais il y avait le mouvement pacifiste qui, justement, je me souviens très bien, j'étais à l'école à l'époque, et on nous dessinait le champ de bataille. L'Allemagne qui sera au centre de... On regardait des films le jour après où il n'y avait plus grand-chose. Et donc, je pense que réellement, M. Schmitt n'avait plus la force politique à l'époque de s'opposer ouvertement. Mais il faisait en sorte qu'avec l'alliance franco-allemande, il arrivait à reporter la décision américaine. Et c'est finalement Kohl qui a eu après la décision à prendre.
Et c'est M. Mitterrand qui dira plus tard « Les pacifistes sont à l'ouest et les fusées sont à l'est ».
Oui. Reprenant la phrase d'un article, d'un éditorial de Jean-François Revel.
C'était Jean-Michel Gaillard qui lui avait fourni cette phrase.
Eh bien, mais il l'avait trouvée chez... Jean-Michel avait dû la trouver chez Jean-François Revel.
Sur cette affaire, je crois que évidemment Mitterrand a porté infiniment plus aux Allemands parce qu'il était socialiste. On ne se rappelle pas à quel point était fort le mouvement pacifiste. Je donnerai un exemple qui est tout à fait significatif. Deux secrétaires généraux successifs de l'OTAN, M. Klass et M. Javier Solana, avaient été, dans la période antérieure, des militants anti-installation des fusées Pershing, ce qui, quand même, a priori, ne devait pas les prédisposer à diriger, à être secrétaire généraux de l'OTAN. Donc, on voit à quel point l'apport de Mitterrand a été vraiment une bouée de sauvetage extrêmement importante pour Kohl, parce que ça prenait complètement à contre-pied la social-démocratie. Je crois qu'il y avait, tandis que Schmitt, effectivement, était tout seul face à cela. Mais sur le petit télégraphiste, sur la complaisance supposée de monsieur Giscard d'Estaing à l'égard de Brejnev et de sa politique en Afghanistan, est-ce que selon vous il était vraiment seul en Europe, ou est-ce qu'il y avait ce que vous avez semblé suggérer un assez réel accord avec Schmitt sur la nécessité de trouver un bon accord avec les Russes.
François Bujon de l'Étang.
C'est un point qui n'est pas très très clair. En réalité, M. Giscard d'Estaing est très sensible aux critiques qu'on lui fait sur sa visite à Varsovie. Je rappelle le contexte, il s'agissait d'aller rencontrer M. Brejnev peu de temps après que les forces soviétiques soient intervenues en Afghanistan et de ce fait menacer la guerre froide. Ça, c'était l'aspect afghan, si vous voulez, des choses, qui était très sérieux, puisque c'était une très forte relance de la guerre froide. Mais il y avait en même temps des menaces qui pesaient sur la Pologne. Et après ce qui s'était passé, bien entendu, à la fin des années 60 à Prague, la crainte était très forte en Occident que la même chose ne se produise à Varsovie. Et l'un des arguments que M. Giscard d'Estaing met beaucoup en avant dans ses mémoires, il revient deux fois dans ses mémoires, dans le tome 2 où il décrit la visite à Varsovie, et dans le tome 3 où il revient sur ses justifications pour y être allé, il dit qu'il y est allé non seulement pour mettre en garde M. Brejnev et pour demander un début de désescalade en Afghanistan, mais parce que M. Guirec, qui à l'époque présidait aux destinées de la Pologne, lui avait demandé expressément d'aller prévenir M. Brejnev que un coup de force sur la Pologne compromettrait définitivement la détente. Guirec était terriblement inquiet de cela. Et M. Giscard d'Estaing se justifie de Varsovie en expliquant qu'il y est allé dans l'intérêt de la Pologne, dans l'intérêt de la paix, et que peut-être son geste a-t-il été mal compris, mais que les propos qu'il a tenus à huis clos étaient, eux, des propos extrêmement fermes et qui ont peut-être eu un effet, pense-t-il, puisqu'on faut les Russes n'ont jamais envahi la Pologne. Ça, c'est sa justification. Il reste qu'à l'époque, il était très isolé dans cette tentative. Il en a parlé à Schmitt, qui lui a dit « De toute façon, moi, je suis invité à Moscou en juin prochain et par conséquent, la question pour moi ne se pose pas. » J'irai à Moscou, mais bon. Et surtout, il avait été mis en garde par son ministre des Affaires étrangères, par le secrétaire général de l'Élysée, par ses conseillers diplomatiques, qui tous lui avaient dit « N'allez pas à Varsovie, c'est une erreur, ce ne sera pas compris, vous serez très critiqué. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ça a entraîné pour lui des accusations de faiblesse. Le petit télégraphiste, c'était évidemment la phrase de M. Mitterrand, mais d'une façon générale, la perception dans l'opinion publique française à l'époque a été celle d'une grande faiblesse à l'égard de l'Union soviétique, ou d'une grande complaisance à l'égard de l'Union soviétique. Et je pense qu'il l'a payé, et que ceci a pu jouer, entre autres, dans son échec électoral de 1980, ce qui vérifie un adage, hélas, très souvent constaté, dans la véracité très souvent constatée, la politique étrangère ne vous fait jamais gagner de voix dans une élection, mais elle peut vous en faire perdre.
Thierry Pêche. En tout cas, l'épisode a rendu service à la gauche qui aurait pu être très divisée sur un front antitotalitaire. Oui. Avec, bon. Oui. Et donc, c'est effectivement un grand service qu'il a rendu à la gauche. Je voulais vous interroger sur un élément dont on a peu parlé, qui est la relation franco-britannique dans cette période. Quel bilan vous pourriez en faire,
François Bujon de l'Étang?
C'est paradoxal, il s'est mieux entretenu, mieux entendu avec M. Callaghan qu'avec Mme Thatcher. Mme Thatcher lui déplaisait, ce qu'il en écrit dans ses mémoires en témoigne, par son style, par son côté totalement intransigeant, par son indifférence aux opinions de ses interlocuteurs. Il n'aimait pas Mme Thatcher. Avec Callaghan, il a éprouvé toutes les difficultés qu'il y a à construire une politique européenne avec des Britanniques, mais manifestement, la tension était moins vive. De toute façon, la Grande-Bretagne n'a pas occupé une part très importante dans ses préoccupations stratégiques, me semble-t-il.
François Bujon de l'Étang, je vous remercie. Je rappelle donc à nos auditeurs que la semaine prochaine, c'est le président Giscard d'Estaing que nous recevrons pour parler avec lui de sa conception et de son exercice du pouvoir présidentiel. Vous avez maintenant rendez-vous avec Antoine Debac pour Marcher, une histoire des chemins. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparé avec Jean Fabremons, Marketa Zatloukalova et Charles Fourmeau, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour cette dernière thématique consacrée au septennat du président Giscard d'Estaing.